sans plus tarder à Jacques Jouet.
Alors à mon tour de remercier chaleureusement Anne Herschberg et Jacques Neff de cette invitation à laquelle j'ai répondu avec enthousiasme et imprudence. Mais je voudrais d'abord poser une question à Jacques Neff, si c'est possible. Dans le dictionnaire des idées reçues, il y a une définition qui dit « devrait toujours être scientifique ». Tu te souviens de quel mot il s'agit ?
Si l'Assemblée ne le connaît pas ici, personne d'autre ne le connaîtra.
Devrait toujours être scientifique. Ça définit un mot, lequel ?
Oui, c'est moi, mais je connais pas.
C'est vrai ? Non, c'est vrai.
Alors, bref, c'est le mot jouet. Alors, je voulais vous dire que je serais très loin du compte. Mais voilà. Donc je suis imprudent d'avoir accepté cette invitation à vous parler de Bouvard et Pécuchet, mais quand même j'ai une méthode. Alors, ma méthode repose sur une forme que j'ai mise au point qui s'appelle « à supposer ». Il faut d'abord que je vous dise ce qu'est un « à supposer », et pour cela je vais demander à trois « à supposer » de le faire à ma place. À supposer qu'on me demande ici d'occuper un espace réservé petit, suffisant, au moyen de quelques lignes et d'une idée derrière la tête, pour ne pas dire une pensée, qui aurait quelque chose à voir avec une activité toute de violence et de délicatesse contre la paresseuse et violente nature, activité dite en langue française, la lecture, je choisirais de ne pas entonner une quelconque déploration sur ce qui serait sa prétendue perte de vitesse, et surtout de n'en pas chanter le moins du monde l'éloge autrement qu'en tentant de développer en amont du moment où tes yeux la parcourent, une bonne phrase, constructible, construite et constructive, une seule phrase bien méandreuse, anastomosée, futile, dont la seule gloire ambitionnée serait de parvenir à ressembler comme deux gouttes d'eau se ressemblent, à un corps intègre, autant que traversé, sûr de lui-même, autant que visité, non défensif, c'est-à-dire le contraire du hérisson des départementales qui ne connaîtra jamais de la roue que le côté le pire et qui finira par s'imposer, notamment par son rythme sans pareil, qui ne sera définissable qu'en référence à un autre à supposer. À supposer qu'on me demande ici de dire ce qu'est exactement un à supposer, je commencerai à obéir à cette injonction en mentionnant le fait que le premier poème à longue phrase unique que j'ai composé avec ce démarreur, il s'occupait des piquets de hasard ou branches de retenue qu'on trouve sur les rives des cours d'eau et singulièrement après qu'ils ont fini de déborder, n'était pas pensé pour être la première fois de toute une série, et moins encore pour fonder une forme, celle que je commence à voir aujourd'hui clairement, je veux dire clairement dans sa petite confusion même, à savoir que si dans la suite j'ai eu recours souvent à supposer, c'était dans des situations de commande, je dirais même d'enquête. Nous faisons un numéro spécial sur le thème de « la première fois », accepteriez-vous d'y contribuer, de sorte que cette forme, initialement peut-être imaginée pour contrer Baudelaire comme une mise sous contrainte du poème en prose, la phrase est unique et le vers est un long monostique de prose que la voix prononçante déroule sans passage à la ligne ou virage en épingle à cheveux, s'enrichit d'un deuxième lieu de la mise en contrainte et en forme, ce deuxième lieu étant celui disparate de l'essai, forme dont Littré dit dans son dictionnaire qu'il est un ouvrage dans lequel l'auteur traite sa matière sans avoir la prétention de dire le dernier mot, et dont il me plaît infiniment qu'elle soit née, mais alors le plus artisanalement comme le plus conceptuellement du monde, d'une étreinte de la poésie métrologique et de la réflexion. À supposer qu'on me demande ici de faire servir à la critique la poésie, tâche qui après tout ne devrait pas excéder les forces de cette dernière, qui n'en a jamais manqué et n'en manquera pas de sitôt, je commencerai ma réponse en dégainant sans état d'âme une forme que j'ai déjà utilisée en de semblables circonstances. Critiquer Roland Barthes, par exemple, à l'occasion d'une exposition qui lui était consacrée à Beaubourg, ou Marcel Proust, ou Jacques Roubaud, non sans que j'aie le scrupule de rappeler que cette forme, et c'est là que j'y, me semble-t-il, ce que j'oserais pour leur nommer sa pertinence, est au moins autant tournée vers l'essai que vers le poème, mode de la chose écrite qui défendent et qui illustrent à mes yeux d'aujourd'hui deux arts distincts, si bien qu'un assupposé est toujours en même temps deux écrits aussi parfaitement différents l'un de l'autre qu'ils sont littéralement identiques. Voilà pour l'esprit des assupposés. Et maintenant, je vais vous proposer 9 assupposés Bouvard et Pécuchet. À supposer qu'on me demande ici de dire quelques mots, de préférence bien sentis, sur un livre mythique et apparemment inachevé, Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, je noterai d'abord la nécessité de la relecture. Troisième lecture pour moi, la première étant fort lointaine et sans trace, la deuxième avec note en page de garde, celles qui permettent de mesurer les changements du livre avec le temps, c'est-à-dire ceux de l'œil du lecteur, et muni que je suis en outre d'un souvenir mi-figue, mi-raisin et doux amer, je veux parler de ce jour où Madame Annie Lebrun, au Panorama de France Culture, qui existait encore, assassina un de mes livres sans l'avoir lu, sur la seule foi d'une interview qu'elle venait d'entendre, commentant mes paroles par la sympathique affirmation que ce que je venais de dire était à peu près aussi bête que du boulevard et Pécuchet réunis. Cette phrase qui se voulait implacable, et l'était, me plongeant dans l'interrogation bien connue « Comment dois-je le prendre ?» Eh bien, sur le moment, plutôt mal, le temps passant, plutôt bien. À supposer qu'on me demande alors de plonger dans le corps du texte, ce qui est la moindre des choses, je commencerai volontiers par son titre, lequel me paraît aujourd'hui remarquable à plus d'un, et particulièrement en celui que titrer un roman d'un nom de héros n'est pas anodin. Madame Bovary ne s'intitule pas plus « La dissolution sentimentale » que « L'éducation sentimentale » ne s'intitule « Monsieur Moreau ». Que titrer par ailleurs de deux noms de héros n'est pas si courant que cela, m'avisant que bien sûr on ne moquera pas de m'opposer Tristan et Iseut ou Paul et Virginie, titre à couplaison hétérosexuelle, je rétorquerai que si les deux héros étaient deux mâles, ni en amont Rosencrantz et Guildenstern ou en aval Dupont et Dupont ne titrent l'œuvre dont ils sortent, on sait que ces deux couples sont en relation génétique pour cause de scènes similaires de messages substitués en Chine et en Angleterre, je ferme la parenthèse, et que ce n'est qu'après Bouvard et Pécuchet, me semble-t-il, qu'on pourrait noter le Narcisse et Goldsmund de Hermann Hesse, Laurel et Hardy, ou bien Spirou et Fantasio, sachant aussi que Cervantes n'a pas titré son livre Don Quichotte et Sancho, mais tout de même Diderot, oui, Jacques le Fataliste et son maître. À supposer qu'on me demande ici, sur la foi de la référence au Quichotte, de me livrer à une tentative de généalogie dans la personnagitude, je relèverai que, avec la complicité de l'eau-forte de Charles Huard, reproduite en couverture du folio dans l'édition Gotomersch, plus exact en cela que la lithographie que vous avez choisie pour votre colloque, pour l'affiche de votre colloque, je ne peux m'empêcher d'imaginer Flaubert devant le petit gros et le grand sec de la Mancha, décidant quant à lui de nous donner plutôt un petit sec et un grand gros de la Manche, toujours, mais pas la même, ne me dites pas qu'à Chavignol, près de Caen, on ne sent pas les embruns de la mer locale, dessinant par là deux silhouettes bien distinctes et inoubliables, les deux couples rimant assez évidemment, outre le vague écho Quichotte-Cuchette sur le plan de l'exposition au danger mental représenté par les livres mal feuilletés, Emma Bovary encore, lesquels livres devraient en toute bonne conviction éducative éclairer nos regards et aboutissant finalement à leur trouble. À supposer qu'on me demande encore de pousser un peu plus loin le bouchon de cette histoire de couple qui commence par un incroyable coup de foudre, j'observerai que pour venir habiter le désert initial, les deux personnages sont décrits non comme grand ou petit, mais curieusement comme le plus grand et le plus petit. C'est-à-dire qu'ils sont mesurés l'un par rapport à l'autre et non en soi, qu'ils ne sont pas non plus dans une relation maître-serviteur, en cela aussi ils sont modernes, la truculence bon enfant de Bouvard s'opposant bientôt à la pète sécheresse virtuellement sectaire de Pécuchet, le tout manifestant une duplicité remarquable et une source de dialogue romanesque qui me paraît prendre sa source dans la personne créative de Gustave Flaubert, dépense et truculence versus exactitude, dépense sexuelle versus abstinence, non pour la réalisation d'une manière d'autofiction, mais bien d'un altéro-roman qui ne craindrait pas les terrains de l'autobiographie potentielle, et justement cette fois, ce qui en assure l'originalité, en partie double. À supposer qu'on me demande à présent de qualifier ce roman un peu de la façon dont Alfred Jarry sous-titrera les siens, Faustrolle, roman néo-scientifique, Les jours et les nuits, roman d'un déserteur, Messaline, roman de l'ancienne Rome, Le surmal, roman moderne, je serais tenté d'écrire pour celui qui nous occupe roman comique, sans que cela m'empêche de me poser la question « quel rire ?» Autrement dit, si le roman comique, selon Raymond Queneau, consiste à sourire et dédaigner la mort, et s'il se moque ici plutôt de la vie, ou rit grassement et exècre la mort, comment le fait-il ? Comment n'épargne-t-il personne, et pas même le livre au nom du monde, si bien que, je cite, ces messieurs dont la bibliothèque était célèbre, ils sont vus le plus souvent par le trou d'une serrure, ou du moins par action de voyeurisme, je cite encore, les deux bons hommes, nus comme des sauvages, se lançaient de grands sauts d'eau, on les vit par la claire-voie, tandis que la mise en scène de, par exemple, la joute théologique de Pécuchet et du curé sous le parapluie et la bourrasque est à peu près aussi hilarante que le chauffage de l'eau du bain par le corps qui s'y trempe, solution d'énergie douce et de bon sens incroyablement moderne, à peu près aussi volontairement drôle qu'un article récent et très sérieux dans la presse du mois dernier sur la nécessaire et écologique pour la couche d'ozone réduction des pets de vaches. À supposer que tout n'ait pas été dit sur le courage intellectuel de Bouvard et de Pécuchet, sur l'engagement total qui les anime avant leur moment de découragement périodique, j'insisterai sur leur côté fonceur, rentre-dedans, boxeur de la connaissance, dont l'irrépressible destin sera de prendre des coups parce que c'est le risque du métier, mais des coups de quelle nature et de la part de qui ? Des contradicteurs, bien sûr, qui sont légions et nourrissent le roman d'une brochette de splendides second rôles croqués de main de maître, mais surtout d'une entité générale qui s'appelle la vie, le concret, le réel ou le monde, dont la complexité se rit de la violence qui lui est faite à vouloir scientifiquement, encyclopédiquement, politiquement le simplifier. À supposer que la lecture ait encore des demandes à me faire sur la façon dont Bouvard et Pécuchet, aux efforts plus que méritoires, sont matés par le monde revanchard, je serais bien obligé de souligner le terrifiant ou le salubre, comme on voudra, scepticisme de Flaubert laissant apparaître sur la page un romancier à la triste figure, réduite à celle précisément du copiste. Ne copiez pas les uns sur les autres, nous disait le bon maître, vous n'allez copier que des âneries. Ce qui est de deux choses l'une, soit une façon austère mais finalement positive d'épurer l'exercice de l'art de toute rhétorique artiste, c'est de cette façon qu'un Charles Reznikov copie par exemple, soit d'une façon plutôt désespérée de déduire comme seule issue de l'exercice de l'art le psittacisme fatal de l'écriture qu'il n'y aura pas nécessité d'achever puisque c'est inachevable. À supposer qu'on me demande alors si je nourris quelque admiration, regret ou compréhension pour l'inachèvement de Bouvard et Pécuchet, je répondrai non seulement que pas les moindres, mais plus encore qu'il est, à mon avis, de bonne heuristique de poser un axiome selon lequel un livre inachevé, et singulièrement quand il est extraordinaire, l'est toujours, toujours, toujours de propos délibérés. N'est-ce pas, messieurs Kafka, Proust ou Musil ? Cet axiome permettant de se demander, hors de toute considération d'ordre biographique, la mort, mais peut-être faut-il mourir pour s'autoriser la modernité capitale de l'inachèvement, non seulement pourquoi, mais comment cet inachèvement a été, si je puis dire, accompli, par exemple, avec un explicit pour ce qui est à la recherche du temps perdu, livre fini, mais inachevé seulement de l'intérieur, d'ailleurs peut-être fini au fond. Tandis que Bouvard et Pécuchet, quant à lui, a bien l'air de disposer d'un incontestable incipit et de manquer de l'explicit, voire. À supposer qu'on me demande enfin si je n'ai pas encore une petite idée derrière la tête pour commenter le déjà trop commenté, comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Baudron se trouvait absolument désert, je répondrai que j'ai acquis récemment, dans une vente privée, je voulais vous en faire la surprise visuelle, mais le fichier image qui était dans mon ordinateur a malencontreusement disparu ce matin à cause d'un bol de chocolat renversé sur le clavier, un morceau inconnu du manuscrit de Bouvard et Pécuchet qui fait état de pas moins de 16 versions successives de cet incipit, ce qui est considérable, et que je vais vous livrer maintenant. État numéro 1. Comme il faisait une température glaciaire de moins 133 degrés, le boulevard Bourdon n'existait pas encore. État numéro 2. Comme il faisait une froidure de moins 33 degrés, l'eau était prise par le gel dans le bassin de l'Arsenal en contrebas du boulevard Bourdon qui n'était pas très fréquenté. État numéro 3. Comme il faisait un froid de moins 32 degrés, des patineurs patinaient sur le bassin de l'Arsenal en contrebas du boulevard Bourdon sur lequel les tapineuses ne songeaient pas à tapiner. État numéro 4. Comme il faisait un froid de moins 13 degrés, les agences de tourisme du boulevard Bourdon proposaient des voyages en chameau dans le désert. État numéro 5. Comme il faisait une froidure de 0 degré, le boulevard Bourdon ne bourdonnait d'aucune foule. État numéro 6. Comme l'hiver connaissait un tout petit réchauffement à 3 degrés Celsius, le boulevard Bourdon se trouvait un peu moins désert que la normale saisonnière. État numéro 7. Comme il faisait une température très douce de 22 degrés sans pic de pollution, le palais Bourbon se trouvait absolument désert. État numéro 8. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. État numéro 9. Comme il faisait une chaleur de 34 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait plein d'abeilles mâles qui vomissaient. État numéro 10. Comme il faisait une chaleur de 35 degrés, les imprimeurs du boulevard Bourdon omettaient des mots, des phrases ou des passages tout entiers dans leur travail de composition. État numéro 11. Comme il faisait une chaleur de 68 degrés, le macadam du boulevard Bourdon avait commencé de fondre. État numéro 12. Comme il faisait une chaleur de 69 degrés, les agences de voyage du boulevard Bourdon proposaient des parcours en traîneau dans le désert blanc. État numéro 13. Comme il faisait une chaleur de 70 degrés, le presbytère du boulevard Bourdon avait perdu l'essentiel de son charme, le plus gros de son éclat. État numéro 14. Comme il faisait une chaleur de 72 degrés, le macadam du boulevard Bourdon avait fini de fondre. État numéro 15. Comme il faisait une chaleur de 89 degrés, les combinaisons de thermosurvie des présidents, ministres et députés arrivaient au bout de leur capacité. État numéro 16. Comme il faisait une chaleur de 99 degrés, l'eau était prête à bouillir dans le bassin de l'Arsenal en contrebas du boulevard Bourdon qui se trouvait absolument désert depuis l'aggravation décisive du grand réchauffement de la planète qui finissait d'abolir toute vie, même piscicole, à son bord. Flaubert, se décidant finalement pour la température moyenne que nous connaissons aujourd'hui, 33 degrés, ce qui lui permet, de façon subtile et non trop catastrophique, civilisationnelle, d'installer dès le début du roman la solution finale, à savoir la désertification exigée par la fureur du monde, réagissant violemment, on l'a vu, au coup de boutoir des efforts de connaissance attendrissants et prétentieux, si bien que la puissance du monde déplace et détruit l'espèce humaine, absolument désert, en lui rabattant définitivement son caquet, solution finale de la connaissance ou de l'obscurantisme, qui conduit le romancier à nous donner à croire à l'incipit, quand à l'évidence, celui-ci n'en est pas un, et que Flaubert a choisi en fait, au nom du paradoxe, de commencer son livre sur une menace et sur un explicit par anticipation, c'est-à-dire de commencer son livre par la fin.
À supposer qu'on puisse jouer le rôle de répondant après une telle communication, je vais essayer d'endosser ce rôle. Mais finalement, je m'aperçois qu'à tous les niveaux, cette proposition que j'ai acceptée bien volontiers lorsqu'elle m'a été faite n'a pas été un cadeau et n'est pas plus maintenant, parce que je ne sais pas trop comment enchaîner là-dessus. Mais peut-être revenir quand même sur cette idée matricienne installée par Pierre Sange dès le départ et reprise malicieusement par Jacques Jouet, du copiste comme auteur de Luciano Canfora. Il me semble que les deux interventions peuvent résonner d'une manière ou d'une autre, bien plus celle de Pierre Sange que celle de Jacques Jouet, puisque Jacques Jouet copie mais transforme. Et là, l'adaptation, je ne crois pas que l'adaptation dont parle Pierre Sange soit celle que vous ayez véritablement pratiquée.
Oui, pas tout à fait, en tout cas, oui.
Oui. Bon, moi, j'ai été très, très, très frappé par cette idée, et je le disais à Pierre Sange, je pensais que tout dernièrement, je le livre comme une anecdote, hein, mais tout dernièrement, il y avait une exposition à Paris que j'ai trouvée passionnante, au plateau, qui est le Fonds régional d'art contemporain Île-de-France, qui s'appelait Les Fleurs américaines. Et, en entrée dans cette exposition, c'est dans le 19e arrondissement de Paris, dans un immeuble moderne, enfin il n'y a rien de grandiose pour nous accueillir. On entrait dans cette exposition et sur la droite, on avait le salon de Fleurus, qui était une reproduction exacte du salon de Fleurus de Gertrude Stein au moment où elle collectionnait le plus l'art en voie de devenir l'art moderne. Et on avançait et là, de manière spectaculaire, on voyait un Cézanne, un Picasso à cet endroit où on s'y attendait peu. Et on allait évidemment, comme on le fait toujours dans une exposition désormais, vers le carton, même si on reconnaissait un Cézanne ou un Picasso, et on s'apercevait que ce Cézanne ou ce Picasso n'était pas peint en 1895 ou de 1905, mais en 1995 ou 2005, et qu'il ne s'agissait que de copies. Et en fait, cette exposition était une reproduction exacte de la scénographie du musée d'art moderne de New York en 1932, tel qu'Alfred Barr, son concepteur, l'avait imaginé. Mais il ne s'agissait évidemment que de copies faites par des écoles d'art, et seul le carton a indiqué cela. Les deux commissaires d'exposition m'ont dit que les réactions à cette exposition ont été d'une immense violence. Un certain intérêt, quand on s'apercevait qu'il y avait peut-être des Cézanne dans le 19e arrondissement, mais quand même une très grande violence à cela. L'enjeu de cette exposition était un enjeu un peu méta-historique sur l'histoire de l'art, qui me semble résonner un petit peu avec ce que Pierre Sange a dit, et finalement aussi avec cette présentation que vous avez faite, c'est que, au fond, cette dialectique entre copie et invention ou imitation et originalité n'a concerné qu'une très faible partie de l'histoire. Et Canfora rappelle effectivement que toute une partie de l'histoire de l'écriture fonctionne sur le modèle de la copie alors avec amplification, adaptation, mais je dois dire qu'en tant que contemporaniste, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est un retour de la copie, mais c'est une critique profonde de la question de l'unicité et de l'originalité comme modalité artistique. Voilà, donc je voulais partir de cela pour peut-être un petit peu revenir, si on peut le faire, parce que Pierre, vous en avez tellement parlé, mais peut-être avec vous, Jacques, qui en a moins parlé, peut-être, mais vous avez envoyé une biographie que j'ai trouvée tout à fait intéressante avant la présentation, où finalement vous faisiez retour là-dessus, où vous disiez que vous étiez un auteur qui ne s'inscrit pas dans cette visée moderne de l'écriture, de la pure originalité, du geste voilà, unique. Et, voilà. Donc est-ce que c'est aussi le côté Bouvard et Pécuchet de votre œuvre, ou cette lecture qu'on peut en faire?
Oui, sans doute. Moi, j'ai été très sensible quand Pierre Sange parlait à cette idée que l'erreur de copie était, comme vous avez dit, était conceptuelle. Enfin, c'était... Et en relisant Bouvard et Pécuchet, j'ai pas mis ça dans mon texte, j'aurais pu le faire, mais j'y ai repensé tout à l'heure. Rappelez-vous, dans les extraits du Sautisier, qui est dans l'édition celle-ci, hein, Gautomerche, on lit ceci, hein, rappelez-vous. Sainte Brigitte avait dit que la Sainte Vierge conserva le prépuce de Jésus-Christ et l'avait légué en mourant à Saint Jean l'Évangéliste. Marie d'Agreda ajoute que la Sainte Vierge et Saint Joseph en Égypte le portaient alternativement. Donc Flaubert a copié cette phrase. Or, l'explicit d'Hérodias, comme elle était très lourde, il la portait alternativement. Hein, c'est la tête de Jean-Baptiste. Donc dans le texte qui est copié par Flaubert, c'est le prépuce de Jésus-Christ. Et il fait une erreur de copie pour faire son explicit d'Hérodias. Il fait passer le prépuce de Jésus-Christ en... Il transforme le prépuce de Jésus-Christ en tête de Jean-Baptiste. C'est quand même assez extraordinaire.
C'est un miracle.
C'est un miracle. Voilà, l'erreur de copie n'est pas conceptuelle, alors, effectivement... Nous sommes damnés.
Peut-être aussi revenir sur cette capacité d'imitation dont vous avez parlé, Pierre, tout à l'heure, parce que moi, quand j'ai vraiment découvert votre travail, c'est exactement de cette manière-là que je l'ai ressenti. Il me semble que chacun de vos livres repose sur cette capacité d'imitation. En ce sens-là, c'est plus... je trouve que là, quand même, il ne s'agit pas de dire en quoi Bouvard et Pécuchet vous influencent ou quoi que ce soit, mais je trouve quand même qu'une des... vous l'avez dit dans votre présentation, vous êtes tout autant Bouvard et Pécuchet que Flaubert. En ce sens-là, que vous jouez à être Lichtenberg, vous jouez à être Kafka, vous jouez à être...
Oui, c'est ça, oui, on se sent très souvent pécuchéen, je l'ai dit plusieurs fois, notamment quand on écrit ou quand on fait ce genre d'intervention, on se sent pas forcément à la hauteur, parce que en tant que. On peut se sentir assez facilement dans la peau à la fois de l'autodidacte amateur, le faux érudit local, tel que peuvent paraître Bouvard et Pécuchet, avec cette volonté et cette naïveté, cette capacité et cette incapacité, cet enthousiasme, on parlait jamais joué, et l'échec lamentable. Mais c'est surtout vrai aussi très concrètement, quand j'ai par exemple travaillé sur l'adaptation radiophonique, aller à la BNF, prendre le sautisier, puis recopier le sautisier, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a fait certainement un geste qui a été fait plusieurs fois par beaucoup d'entre vous pour des raisons éditoriales ou autres, et qu'on se retrouve encore en train de recopier quelque chose qui a été copié. Et cette idée d'identification pourrait paraître orgueilleuse parce qu'on croit s'identifier à Flaubert, mais en fait, pas du tout. On est Bouvard et Pécuchet, on est tombé dans ce piège-là, le piège tendu par Flaubert, qui est que non seulement tout ce qu'on est. On dit est déjà écrit dans le dictionnaire, mais en plus tout ce que l'on fait est prévu d'avance comme si on faisait partie de son projet. C'est ça qui est top. Et c'est vrai que ce retour aux archives et cette écriture comme réécriture peut sinon nous inciter à écrire des livres, en tout cas lever certains obstacles qui sont les obstacles d'une certaine timidité. Il y a toujours une gêne à rajouter un livre à tous les livres qui existent déjà. Donc pour permettre ce geste qui est quand même qui suppose une certaine audace, qu'on veuille ou non, il y a une certaine audace, oui, à écrire des livres, à les publier, à faire en sorte que le matériel il existe. Il faut se mettre dans, enfin, je parle peut-être pour moi, mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer chez certains auteurs. Il faut peut-être jouer le jeu, effectivement, et se mettre dans un rôle, et puis accepter le fait que c'est une comédie, et la comédie nous aide à accepter l'orgueil ou l'audace de ce geste-là, et en tout cas, nous permet d'écrire avec un petit peu plus d'humour, avec ce recul, ce qui n'empêche pas la bonne volonté, ou le travail consciencieux, ou le retravail, ou la volonté de faire quelque chose de correct, mais en tout cas, nous empêche d'avoir une vision un peu trop flatteuse de nous-mêmes et du travail que l'on propose.
Et vous vous reconnaissez dans cette idée d'écrivain-comédien lorsque vous jouez à écrire des romans feuilletons, lorsque vous jouez à écrire trois contes, mais avec une lettre qui fait tout varier, etc. Vous reconnaissez dans cette idée-là ou
Le jeu, est pour moi une activité humaine extraordinairement importante et grave. C'est-à-dire que le jeu n'est pas synonyme de futilité ou de choses désengagées. Hein. C'est le contraire. Donc oui, c'est bien sûr, je me reconnais parfaitement dans cette idée de jeu. Ouais.
Moi, je veux bien qu'on entame un dialogue assez ouvert à partir de maintenant, que je peux après modérer, hein, mais je pense que les deux interventions étaient tellement passionnantes qu'elles suscitent en vous un certain nombre d'interrogations. Jacques ?
Oui, je veux bien. Oui.